VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Après plus de 45 ans de carrière politique, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a officialisé aujourd'hui sa candidature à la Maison-Blanche, fort de son image modérée, rassembleur et d'une popularité persistante malgré de récentes polémiques sur ses gestes d'affection trop marqués. Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie, même tout ce qui a fait l'Amérique est en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis, a écrit Joe Biden, âgé de 76 ans, sur Twitter, grâce notamment à sa grande autorité. L'ex numéro 2 de Barack Obama domine déjà depuis des mois les sondages de tout ce début de campagne pour décrocher l'investiture démocrate. Joe Biden devient ainsi le 20e candidat à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre 2020. Un nombre record pour un groupe qui présente aussi une diversité sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Le président Donald Trump, lui, est sur la défensive. Le locataire de la Maison-Blanche menace de porter l'affaire devant la Cour suprême si ses adversaires démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants envisagent notamment une procédure de destitution contre lui. Anne Alberson.
Les accusant de politique partisane, M. Trump a encore souligné dans un tweet que l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 a montré qu'il n'y avait eu ni collusion ni entrave à la justice de sa part. La menace d'une saisine directe de la plus haute instance judiciaire du pays a surpris certains experts constitutionnels qui doutent que la Cour suprême puisse intervenir, faisant remarquer que le seul juge qui ait un rôle à jouer dans une telle procédure, c'est le président de cette Cour, et c'est pour présider tout jugement du président des États-Unis au Sénat.
Kim Jong-un s'est employé aujourd'hui à raviver les liens historiques entre Moscou et Pyongyang lors de son premier sommet avec un Vladimir Poutine désireux de s'impliquer davantage sur le dossier coréen. Deux mois après le fiasco retentissant de sa rencontre avec Donald Trump à Hanoï, le dirigeant nord-coréen a assuré avoir passé cette fois un très bon moment après deux heures de tête-à-tête avec le président russe à Vladivostok dans l'extrême-orient russe. Idriss Assaidoudia.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré aujourd'hui au leader nord-coréen Kim Jong-un que la Russie souhaitait, je cite, « soutenir les tendances positives sur le coréen, théâtre d'une détente spectaculaire depuis début 2018, et aussi renforcer les relations économiques de Moscou avec Pyongyang ». M. Poutine a tenu ses propos au début de son sommet avec M. Kim à Vladivostok en Russie. Sur le plan bilatéral, nous avons beaucoup à faire pour développer nos relations économiques, a-t-il ajouté.
Des délégations de l'Iran, de la Turquie et de la Russie sont arrivées aujourd'hui au Kazakhstan pour une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie en présence d'émissaires du régime de Damas et des rebelles. Des rencontres bilatérales et trilatérales sont prévues dans la capitale de ce pays d'Asie centrale avant une session plénière demain vendredi, a précisé le ministère kazakh des Affaires étrangères. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, est également attendu pour les pourparlers à Washington. Il est 7h03.
Nos infos sur voaafrique.com.
L'actualité sur le continent maintenant, le président nigérien Muhammadu Buhari va se rendre à partir d'aujourd'hui en Grande-Bretagne pour une visite privée, ont annoncé ses services, une destination où le dirigeant s'est fait longuement soigner lors de son premier mandat entre mai 2016 et la mi-2017. Monsieur Buhari avait séjourné à plusieurs reprises à Londres où il avait reçu des soins pour une maladie dont la nature n'a jamais été révélée. Son retour au Nigeria est attendu le 5 mai 2019, a déclaré le porte-parole de la présidence Femi Adesina dans un communiqué. Retour sur l'élection mercredi soir en RDC de Jeannine Mabunda, proche de l'ancien président Joseph Kabila à la présidence de l'Assemblée nationale. Candidate unique à ce poste après la mise à l'écart de la candidature de son challenger, Henri Thomas Lokondo, l'ancienne ministre du portefeuille a reçu 375 voix sur les 383 votants. Elle sera secondée par Jean-Marc Kabound, à Kaboun de l'UDPS Tshisekedi. Cette élection s'est déroulée sans les députés de l'opposition qui l'ont boycotté. Reportage à Kinshasa de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
L'opposition parlementaire réaffirme son refus catégorique de servir d'alibi et de cautionner la consécration en République démocratique du Congo d'une démocratie de pacotille que le peuple congolais n'a cessé de combattre même au prix du sang. Tout en rassurant le peuple congolais de sa participation active aux travaux parlementaires, les députés nationaux de l'opposition confirment que tant que la Constitution de la République, la loi portant statut de l'opposition et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne seront pas respectés, ils ne participeront à aucun organe de direction de l'Assemblée nationale.
C'est par cette déclaration de l'opposition que s'est ouverte au Palais du Peuple cette longue journée consacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Non satisfaits du seul poste de rapporteur adjoint leur réservé, les députés de l'opposition ont décidé de boycotter le scrutin. Cela n'a pourtant pas empêché le déroulement normal du vote car avec 383 députés présents sur les 500, le quorum était largement atteint. Et sans surprise, Jeanine Mabunda et les 5 autres candidats du ticket FCC Cash ont été élus puis investis. À 55 ans, Jeanine Mabunda, ancienne ministre du portefeuille et ancienne conseillère de Joseph Kabila, sera la première femme à diriger l'Assemblée nationale depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006. Jeanine Mabunda.
Nous promettons de tout mettre en œuvre en vue de nous acquitter loyalement des lourdes charges que vous venez de nous confier. Rassurez-vous que nous ferons notre possible pour mériter de votre confiance et rester à votre écoute dans la proximité. En ce qui concerne la mise en place des bureaux des commissions permanentes, leur constitution tiendra compte notamment des équilibres politiques, provinciaux, mais aussi de la représentation de la femme et des jeunes députés, sans oublier le critère de performance.
Cette proche de l'ancien président Joseph Kabila sera notamment secondée par Jean-Marc Kabunda Kaboun de l'UDPS Tshisekedi. Le député national Joseph Kokonyangi du Front commun pour le Congo recommande au nouveau bureau de donner priorité aux réformes essentielles pour la bonne marche du pays.
Nous devons faire beaucoup de réformes très importantes pour espérer aider la population par la suite. C'est ça la première mission que je recommande à notre bureau.
L'environnementaliste Didas Pembe attend lui désormais la désignation rapide du Premier ministre et de son équipe gouvernementale.
J'espère qu'à l'issue du bureau définitif, le président de la République va une bonne fois pour toutes publier le nom de notre Premier ministre et que enfin l'équipe gouvernementale puisse être mise sur pied.
Mais que peut bien symboliser la présence d'une femme à la tête de la deuxième institution de la République démocratique du Congo? La députée nationale Élisée Minembwe répond.
La société congolaise est de plus en plus convaincue qu'on ne peut pas laisser une frange de la société en dehors de la gestion de la communauté.
Le bureau définitif de l'Assemblée nationale investit. La population attend désormais la nomination du Premier ministre qui interviendra dans les tout prochains jours, a d'ailleurs annoncé depuis Kisangani où il séjourne le président de la République Félix Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a annoncé, sans le préciser, un accord sur la plupart des exigences présentées par les leaders de la contestation lors d'une réunion mercredi qui s'est achevée avec la démission de 3 membres de ce Conseil. Un des leaders de la contestation présent à la réunion, Ahmed Al-Rabia, a fait savoir que les deux parties avaient convenu de former un Conseil conjoint sans développer. À cette réunion participaient les militaires, les leaders de l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, qui regroupe les principale formation de la contestation. Le collectif contre la vie chère a suspendu hier son appel à manifester aujourd'hui au Tchad, manifestation qui avait été interdite et avait provoqué une brève arrestation du président du groupe. Ce dernier avait été arrêté mardi après avoir maintenu son appel en dépit d'une interdiction du gouvernement à manifester pour protester contre la pénurie de gaz qui touche le Tchad depuis plus de 2 mois. Et puis tous les vols à destination de la ville de Pemba dans le nord du Mozambique ont été annulés aujourd'hui avant l'arrivée imminente du cyclone Kenneth, un mois après le passage d'Idai qui a fait plus de 600 morts dans le pays. Le cyclone qui a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi, l'archipel des Comores est attendu ce jeudi en fin d'après-midi dans le nord du Mozambique, frontalier de la Tanzanie. Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les provinces mozambicaines du Cabo Delgado et de Nampula dans le nord, ont mis en garde des Nations Unies. Prochain journal, dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.